Physique, métaphysique à Fribourg, le 1er mars 83, 4e cours.
Pour ne pas l'oublier, les cours après Pâques reprendront j'ai envie de faire du zèle, mais c'est quand, c'est quel jour je reviens? Le 19. 19 avril, mardi 19 avril. Si ça vous va, ça vous oblige d'être là tout de suite au début, c'est embêtant. Alors pratiquement, ce sera les mardis tous les 15 jours, comme on l'a fait maintenant. N'est-ce pas ? Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que le semestre d'été est toujours très court. Ça fait une fois, deux. Vous avez compté combien de fois ça faisait ?
Ça fait cinq fois.
Combien ? Cinq fois. Cinq fois, la dernière fois, ça ne compte pas. Donc, c'est les examens. Hein ? Bon. Quatre fois quoi. Bon, alors nous allons continuer de réfléchir un peu sur cette position de Max Scheler qui est intéressante parce qu'elle a joué un rôle très important. Vous savez bien combien elle joue un rôle important même sur la philosophie du Saint-Père. Max Scheler. Oui. De la philologie de la personne et ça joue un rôle important. Il a essayé de faire de fait une synthèse entre le point de vue de la philosophie réaliste, classique, et puis le point de vue de Max Scheler, le point de vue de la personne. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même chez lui tout un aspect de la personne qui joue. Je ne dis pas du tout que le Saint-Père est dans la perspective de Max Scheler, mais ça a joué un rôle pour lui. La personne n'est pas une chose, elle ne porte pas non plus en soi cette essence de la chosalité qui est essentielle à toutes les choses de valeur. À titre d'unité concrète de tous ses seuls actes possibles, elle s'oppose à tout le domaine de ce qui peut être objet, à plus forte raison, à tout domaine des choses qui n'est qu'une partie du domaine des objets. Elle n'existe que dans l'accomplissement de ses actes. Autrement dit, revendication de la personne pour un statut particulier qui ne peut pas être purement objectif. C'est ça la chose. Il y a une revendication. À ce point de vue-là, c'est très intéressant, parce que l'objet tel qu'il est conçu là, vous comprenez, c'est pas du tout l'objet tel que nous le concevons. C'est l'objet, ce qui est mesurable. La personne a quelque chose qui échappe à la mesure. La personne a quelque... C'est ce qu'on disait anciennement, quand on disait que la personne est ineffable. C'est pas autre chose que ça. La personne est ineffable. Elle a quelque chose en elle qui transcende toute mensuration. Et la personne est un lieu d'opération et de responsabilité. Et je crois qu'à ce point de vue-là, c'est juste. Vous voyez, quand il dit ceci, alors ce serait évidemment très important à bien saisir. En réalité, la personne est l'unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue. Non point seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu et hors de lui. On voit très bien ce que ça veut dire. Non, et non pas seulement une chose pensée derrière l'immédiatement vécu. L'immédiatement vécu, vous voyez, c'est ma conscience. Et je dirais, je pose derrière un principe. Et l'induction. Bien, la personne n'est pas de l'ordre d'un principe. Ce que nous disons qu'elle est un pos. C'est bien plus complexe, la personne. Il ne faut pas concevoir la personne comme un sujet. ne faut pas concevoir la personne comme un principe. Il faut concevoir la personne comme un tout. Et saint Thomas revient constamment là-dessus. C'est très curieux. Saint Thomas nous dit que la personne, c'est un tout. Et je crois que c'est très important. C'est un tout, la personne. Vous voyez, c'est la philosophie du tout, c'est la philosophie de la personne. C'est concevoir le point de vue du tout. La personne, c'est le tout. C'est le pos. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait juste. La réaction d'un Max Scheler est bonne. Elle n'est pas suffisante, mais elle est bonne. La personne existe dans ses différents actes. Elle est tout entière présente en chacun. Elle est ce qui les unifie et les rend concrets. Elle est ce qui donne un sens. Là, ça pourrait être plus délicat. Oui. Mais c'est vrai qu'elle donne un sens à nos activités. La définition essentielle que Max Scheler donne de la personne est la suivante. La personne est l'unité d'existence concrète. Oui, c'est bien le pos. Elle est l'unité d'existence concrète, elle-même essentielle d'actes d'essence de diverses sortes. Unité qui, en soi, précède toutes les différences d'actes essentiels, singulièrement la différence entre perception extérieure et perception interne, vouloir externe et vouloir interne, perception affective et amour et haine extérieure et interne. Singulièrement, la différence, vous voyez, elle précède toutes les différences d'actes essentiels. Elle précède, donc elle est ce qui unit par le fait même. Je ne peux pas mettre la personne du côté des actes internes, ni du côté des actes externes. La personne, c'est aussi bien le geste, l'intention. Le geste fait partie de ma personne. Ma manifestation, ma manière de me présenter, ça fait partie de ma personne. Et puis, il y a mes actes internes. Elle est au-delà de cette distinction. Cette distinction est une distinction qui vient après. Donc, elle est au-delà. Nous disons un pos, et quand je dis pos, je veux dire qu'elle implique tout ça, vous voyez. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que ce petit terme grec, n'est-ce pas, le pose, si la personne est un pose, montre qu'elle est un tout. Et donc elle est antérieure à toutes ces distinctions. L'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers. L'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers. Tout ça, on peut le recevoir. Hein? Moi, je n'ai aucune difficulté à accepter ça. Je crois que c'est descriptif. C'est évident, c'est descriptif, c'est un phénoménologue, il ne faut pas lui demander autre chose. Mais c'est intéressant pour essayer de faire comprendre la perfection et la plénitude de ce que c'est que la personne. Il est donc clair que la personne ne peut se réduire à l'X d'un simple point de départ d'acte. C'est lui qui dit ça. L'X, donc un sujet. Un sujet départ d'acte, ni à une sorte quelconque de simple corrélation ou entrecroisement d'actes, comme le soutiennent généralement certains tenants d'une conception actualiste de la personne, qui prétendent comprendre la personne à partir de son faire. Ex operari sequitur esse. Non, insiste Scheler, la personne n'est pas un point de départ vide à l'origine des actes, mais bien l'être concret sans lequel, lorsqu'on parle d'un acte quelconque, on ne saurait jamais en atteindre l'essence pleine et adéquate. Ce n'est que par leur appartenance à l'essence de telle ou telle personne individuelle que les actes se concrétisent et passent de l'état d'essentialité abstraite à l'état d'essentialité concrète. C'est le concret, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le concret de l'être. Et la personne, c'est le concret de l'être. Si la personne n'existe que dans l'accomplissement de ses actes, si elle est tout entière présente à chacun de ses actes pleinement concrets et varie tout entière en chacun d'eux et par eux, Cela ne veut pas dire que son être même naisse d'aucun de ses actes, ni s'altère comme une chose dans le temps. La personne ne requiert pas davantage un être durable qui se conserverait tel à travers la succession des actes pour maintenir l'identité de la personne individuelle. Pour Marc Scheller, l'identité consiste uniquement ici dans l'orientation qualitative de ce simple devenir autre lui-même. C'est assez complexe parce que c'est toujours très difficile de décrire, mais je crois que c'est assez juste. Pour Scheller, l'identité consiste uniquement ici dans l'orientation qualitative de ce simple devenir autre lui-même. La personne ne vit ni dans le temps phénoménal, tel qu'il est donné immédiatement dans le flux des processus de l'âme intérieurement perçu, ni dans le temps objectif des physiciens. Et puisque la personne ne réalise son existence que dans le vivre par expérience vécue. Hein, vivre par expérience vécue. C'est très difficile, ça, à bien saisir. Le vivre dans l'expérience vécue. Et on voit très bien la durée. On voit cette notion de la durée de la personne. Donc, et puisque la personne ne réalise son existence que dans le vivre par expérience vécue, de ces expériences vécues possibles, c'est un non-sens que de présenter, que de prétendre la saisir dans ces expériences vécues, telles qu'elles se vivent simplement. Tant que nous regardons du côté de ces prétendues expériences vécues, au lieu de considérer le vivre par expérience vécue de ces expériences vécues, la personne nous reste totalement inaccessible. Il ne faut pas considérer le petit résidu, vous voyez, qui serait là, latent, et qui durerait tout le temps. Maintenant je fais ça, tout à l'heure je vais faire autre chose, et ma personne demeure toujours la même. Mais non, ma personne elle est présente à tout ce que je fais. Ma personne assume tout ce que je fais. Elle est responsable de tout ce que je fais. Donc elle est présente à tout ça. Donc ce n'est pas le petit résidu, vous voyez, comme un sujet qui serait là latent. Et donc quand je dis que c'est ce qui dure, faisons attention. C'est ce qui dure, mais en étant présent. C'est le pause. C'est le pot, c'est le comment de ma manière d'être. Et c'est aussi bien ma substance que mes opérations. C'est aussi bien mon âme que mon corps. C'est mon pot. Ça traduit assez bien, vous savez, c'est assez intéressant de voir l'illustration du pot par Marc Scheller. À ce point de vue-là, c'est intéressant. Le mot « personne » est un terme absolu, dit Marc Scheller, et non relatif, comme le « je ». Qui se réfère toujours à un « tu » d'une part et au monde extérieur d'autre part. Le « je », c'est par rapport à toi. La personne n'est pas relative à un autre. Ça, c'est aussi très intéressant parce que ça montre le souci qu'il a de ne pas considérer la personne uniquement dans un dialogue. Je n'existe que dans la mesure où je suis en face de quelqu'un d'autre. Je n'existe que quand j'ai une glace devant moi. Alors quand j'ai une glace devant moi, j'existe. Mais quand j'ai plus de glace devant moi, j'existe plus, je ne me représente plus. Alors je n'ai plus rien. Il y a des gens qui sont comme ça, vous savez, alors ils ont tout le temps le miroir en poche pour se regarder. Alors à ce moment-là, ils existent. Mais le jour où ils n'ont plus personne en face d'eux-mêmes, ils n'existent plus. Eh bien ça, ce n'est pas la personne. Ça, c'est le jeu psychologique relatif à toi, au tu. Alors on se renvoie la balle. Je, toi, toi, je, moi, toi. Vous voyez, alors on se renvoie là-bas. Mais ça, c'est très bien psychologiquement, mais ça ne signifie rien du tout au point de vue de la personne. La personne, ce n'est pas ça. À la différence du je, ce qu'on vise mentalement en disant personne présente un caractère de totalité qui se suffit à soi-même. C'est exactement le tout de Saint Thomas. Scheller entend par personne une totalité qui est pleinement indifférenciée par rapport aux oppositions. Pleinement indifférenciée par rapport aux oppositions. Le « je tue » psychique et, et physique. Le « je monde extérieur », tout ça c'est des oppositions. La personne peut percevoir son « je » comme elle perçoit son corps propre et le monde extérieur. Mais elle ne saurait être pour elle-même objet de représentation et de perception, ni pour soi ni pour autrui. Elle est au-delà de la représentation. En d'autres termes, ce qui appartient à l'essence de la personne, c'est de n'exister et de ne vivre qu'effectuant des actes de visée intentionnelle. Par définition même, elle ne peut donc être objet. Quels sont pour Scheller les rapports de la personne et de la conscience ? Ça, c'est plus délicat. Donc, vous voyez comment il essaie d'arriver, toujours par des couches, des niveaux différents, de préciser ce qu'il y a d'absolu, et c'est ça que je crois qu'on doit comprendre. La personne est une totalité. Donc ce n'est pas quelque chose de relatif. Tant que vous restez dans le relatif, vous n'êtes pas au niveau de la personne. Si l'on entend par conscience, c'est Max Scheler qui parle, si l'on entend par conscience tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne, tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne. Il faut alors définir la personne et ses actes comme une existence supraconsciente, en face de laquelle les phénomènes de conscience eux-mêmes se divisent de leur côté en phénomènes subconscients et surconscients. Mais si l'on désigne par conscience tout ce qui est conscience de quelque chose, et si l'on entend par conscience de quelque chose sans rien présupposer concernant le fondement de cette conscience, tous les actes intentionnellement orientés et tirant leur sens de cette intentionnalité, alors on est en mesure et en droit de définir la personne comme la conscience concrète de. Vous voyez donc ? La conscience concrète de tous mes actes intentionnels. Mais conscience concrète de. La conscience de soi et la conscience de sa valeur propre ne suffisent pas pour qu'il y ait personne. Et le simple fait d'être homme en tant qu'homme ne suffit pas non plus à déterminer le cercle des essences qui peuvent être tenues par des personnes. En réalité, ce n'est qu'à partir d'un certain niveau d'existence humaine que le concept de personne trouve son application. Le lieu où éclate à nos yeux l'essence de la personne ne doit pas être cherché dans l'homme en général, mais dans une certaine sorte d'homme. Pour être personne, l'homme doit être saint d'esprit. Alors à partir de ce moment-là, vous laissez tomber pas mal de choses. Tu vois ? Pour être personne, l'homme doit être saint d'esprit et avoir atteint un certain niveau de développement. Un petit enfant présente les phénomènes de l'égoïté, de l'animation, de la conscience de soi, cela ne suffit pas à faire de lui une personne morale. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous voyez, c'est qu'il montre ce que c'est que la personne morale, donc l'égoïté. Hein. L'égoïté, c'est non, ça. Vous êtes toujours tourné sur vous. Vous n'êtes pas encore entré dans l'intentionnalité. On est entré dans l'intentionnalité quand on a une fin. En troisième lieu, c'est quand même curieux. Vous voyez, on ferait des nuances différentes, hein, bien la coupe différente, hein, mais c'est intéressant parce que c'est quand même toute une analyse sur la personne. En troisième lieu, pour être une personne, l'homme doit avoir acquis la domination de son corps propre. Vous voyez, le dominium de saint Thomas. Vous retrouvez tous les éléments de saint Thomas, hein, mais dit dans un langage assez particulier. Pour être une personne, l'homme doit avoir acquis la domination de son corps, sur son corps, et se sentir, se vouloir, se vivre lui-même immédiatement comme le maître de son propre corps. Enfin, il faut distinguer de la façon la plus rigoureuse l'idée de personne de toutes les idées fondées sur les phénomènes d'expérience vécue, comme celui d'âme, substance ou de caractère. Ça, c'est plus délicat. La notion de caractère, entendant par là les dispositions durables d'une personne, dispositions volontaires, spirituelles, intellectuelles, etc., n'a rien à voir avec l'idée de personne. Tout ce qu'enseigne la psychiatrie concernant les altérations du caractère dans certaines affections mentales ne saurait jamais concerner, fût-ce dans les cas les plus graves, la personne même d'autrui. Ce qui a disparu dans ce cas, c'est simplement l'être donné pour autrui de sa personne. La seule chose qu'on puisse dire dans les cas extrêmes, c'est que la maladie a rendu finalement la personne parfaitement invisible. Elle s'est cachée dans son trou, se manifeste plus. C'est vrai, une personne malade, c'est comme ça. Alors, il faut la piquer pour que ça ressorte de temps en temps. La seule chose qu'on puisse dire dans les cas extrêmes, c'est que la maladie a rendu finalement la personne parfaitement invisible et qu'on ne peut plus porter aucun jugement sur elle. Elle est dans un sépulcre. Mais cela même, nous ne pouvons le dire que parce que nous continuons à supposer derrière ces altérations du caractère l'existence d'une personne que ces altérations n'affectent pas. Oui, au fond, c'est la substance. C'est pas dit, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais c'est la substance. C'est l'âme spirituelle. Alors nous savons très bien que la maladie, ben oui, la maladie, les affections que le psychiatre regarderait n'affectent pas ce qu'il y a de plus profond dans l'âme. Ça fait que l'homme ne peut plus se manifester, c'est sûr. Il ne peut plus se montrer, mais il est toujours une personne humaine. Mais c'est quand même très très beau de voir arriver à ce point de vue-là. La personne est transcendante à toute psychologie. Hein? C'est pas moi qui le dis. Hein? Alors voyez bien, les psychologues qui veulent atteindre, eh bien n'oubliez pas ça. La personne est transcendante à toute psychologie. Et il n'est aucune psychologie, aucune, qui pour constituer son objet ne commence précisément par faire abstraction de la personne. C'est farouche, hein? La mise entre parenthèses de la personne, psychologie. La personne est au-delà de la psychologie. Je ne peux pas donc l'atteindre par la psychologie. Si donc la perspective kantienne, c'est la rationalité d'une conduite conforme à la loi qui permet de parler de personne, chez Scheller, au contraire, la personne est condition de toute moralité. La condition. Ce qui est le support des valeurs bons ou méchants, avant tous les actes singuliers et indépendants d'eux, c'est la personne. C'est l'être même de la personne. Oui. C'est ce qui est support de tout acte, bon ou mauvais. Donc, ce qui est au-delà de toute psychologie. La psychologie regarde le conditionnement de nos opérations, eh bien, la personne est au-delà. Bon et méchant sont des valeurs de personne, c'est-à-dire des valeurs qui affectent immédiatement la personne même. Et toute valeur y compris toutes les valeurs réelles possibles, les choses de valeur, comme les biens matériels et spirituels, ainsi que toutes les valeurs appartenant à des communautés et des structures organiques impersonnelles, est subordonnée aux valeurs de la personne. La valeur de la personne elle-même est la valeur des valeurs. Et la glorification de la personne des et la glorification de la personne des personnes est la signification morale de tout ordre moral. Si c'est par une perception affective que nous avons accès au monde des valeurs, et si c'est dans l'amour que la personne se révèle à nous, et dans l'amour que la personne accomplit son essence axiologique, individuelle, qui est son salut personnel, le plus haut amour de soi est donc l'acte par lequel la personne atteint à la pleine compréhension de soi-même et par là à l'intuition et à la perception affective de son salut. Ça, c'est très beau. Oui, son salut, donc sa finalité. La personne n'est saisie que dans sa finalité. Je relis ces choses-là, parce que c'est intéressant de voir quand même où il est arrivé. Encore une fois, je dis avec une méthode qui n'est pas très commode, hein, parce que la méthode philologique, hein, elle veut être au-delà du point de vue psychologique, au-delà du point de vue psychologique, mais ce n'est pas commode. Donc, si c'est par une perception affective que nous avons accès au monde des valeurs, c'est dans l'amour que la personne se révèle à nous. Et dans l'amour que la personne accomplit son essence axiologique individuelle. Donc c'est dans l'amour que la personne accomplit son essence axiologique individuelle, qui est son salut personnel. Alors, le plus haut amour de soi est donc l'acte par lequel la personne atteint à la pleine compréhension de soi-même et par là à l'intuition et à la perception affective de son salut. Mais toute personne est responsable de la valeur morale des autres et l'amour vraiment moral. Le seul amour moral est l'amour de personne à personne. Vous voyez l'amour d'amitié. Amour qui vise à la plus haute valeur de la personne d'autrui. En définitive, cet amour d'autrui, ainsi que l'amour de soi, se fond dans l'amour de la personne des personnes. Le moment initial de l'émotion amoureuse est une personne ontiquement réelle, la personne de Dieu. Donc, en définitive, pour lui, la personne n'est parfaitement personne que quand elle rejoint l'amour de Dieu. Alors, il y a une petite ontologie qui demeure. Hein. Ça, c'est sûr, c'est évident, dans toute la philologie, c'est toujours ce qui est le danger. Nous avons vu que l'essence axiologique de la personne était individuelle. Cela ne veut pas dire que l'essence elle-même soit individuelle. Lorsque Max Scheler parle d'essence, il s'agit d'une essentialité d'ordre intuitif, qui, de soi, n'est ni universelle ni individuelle. En précisant que l'essence axiologique de la personne est individuelle, il veut dire qu'elle n'est autre que son salut personnel. La personne, dans la mesure même où elle est pure personne, est un être individuel, par conséquent unique et distinct de tout autre. De façon analogue, sa valeur est une valeur individuelle et unique. Et c'est avec la spiritualité qu'augmente l'individuation de l'être et de la valeur. Mais pour Max Scheler, le principe de l'individualité ne s'applique pas seulement à la personne singulière, il s'applique aussi bien à la personne commune. Par exemple, le peuple grec ou la communauté chrétienne qui a son propre salut personnel. Pour Marc Scheller, en effet, à chaque personne finie appartiennent à la fois une personne singulière et une personne commune, qui entretient des relations mutuelles, mais dont l'idée de l'une ne constitue pas le fondement requis pour former l'idée de l'autre. La personne commune n'est pas un rassemblement de personnes singulières, en ce sens qu'elle n'existerait qu'à la suite d'un tel rassemblement. Elle est une réalité vécue, non une construction. Il n'y a aucune subordination d'un principe entre personne singulière et personne commune, mais un rapport de subordination éthique commun de deux sortes de personnes à l'idée d'une personne infinie, chez qui disparaît cette distinction entre personne singulière et personne commune, qui appartient par nécessité d'essence à toutes les personnes finies. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, personne singulière, personne commune, on voit très très bien, c'est toujours la même chose. Hein. On est dans une perspective phénoménologique. C'est très très difficile d'arriver à comprendre ce que c'est que l'universel. C'est très difficile, parce que c'est la conscience de l'universel. Vous voyez ? Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent évidemment à cette pensée. Bon, je crois qu'on peut dire en définitive, la personne se définit comme une conscience concrète de, conscience de soi, de sa valeur propre, à condition de préciser que ce concept ne s'applique qu'à partir d'un certain niveau de développement et d'une certaine domination par laquelle on est le maître de son propre corps. En ce sens, on comprend comment la personne est condition de toute moralité. Bon et mauvais sont des valeurs de la personne, et la personne elle-même est la valeur des valeurs. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et accomplit son salut. Et cet amour se fonde dans l'amour de la personne des personnes. La personne est un être individuel et sa valeur est individuelle, mais elle est de façon également primitive membre d'une personne commune. Bon, alors ça il faut le savoir, pour ceux qui s'intéressent à la question de la personne, il est évident que Max Scheller représente un grand tournant. On ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, si on parle de la personne, négliger cette position. Ça, je crois que c'est très important. Alors, il y a dans Max Scheller encore quelque chose qui est très intéressant à voir, c'est les manières dont il précise les diverses personnes. Il y a la personne du sage, il y a la personne de l'ami, il y a la personne de l'artiste. Vous voyez ? Et on comprend, parce que c'est le nœud concret dans lequel va définir, on va trouver le sage, l'ami, le savant, l'artiste. Oui. Et c'est ça qui explique personne commune et personne singulière. Oui. Il y a le monde des personnes, comme c'est fait des petites monades particulières, qui sont en relation les unes avec les autres. Et à la fois, la personne implique cette conscience radicale et cette conscience de vivre de. Donc il y aura toujours cette double dimension dans la personne. La dimension radicale et la dimension d'intentionnalité de vie. Et je crois que ça, c'est important à souligner parce que ça nous fait comprendre comment on ne ramène pas du tout la personne à un absolu qui se ferme sur lui-même. C'est au contraire ouvert aux autres. Et je crois que c'est pour ça qu'il insiste tellement sur personne singulière et personne commune. C'est qu'il y a un emboîtement. Les personnes s'emboîtent les unes les autres. Mais c'est qu'il y a une personne singulière, ça ne peut jamais exister seule. C'est impossible. Elle existe toujours comme un tissu de relations avec les autres. Mais ce tissu de relations avec les autres a quelque chose de très fondamental dans le point de vue de ce que représente la personne. Alors, il y aurait à voir il y aurait à voir le problème de la personne chez quelqu'un de beaucoup plus facile à comprendre, qu'il faut noter, c'est Médoncel, Strasbourg, qui était un bon théologien, un bon philosophe, je veux dire, mais avec des idées assez particulières. La position de Maurice Nédoncel concernant la personne est assez bien définie dans ses lignes, où il parle de la réciprocité des consciences. Alors, c'est dans la réciprocité des consciences. Il faudrait regarder aussi la personne humaine et la nature. Pour qui veut connaître le statut métaphysique de la personnalité, une idée d'Ancel. Quand il parle de la personnalité métaphysique, c'est assez particulier. Hein. Pour qui veut connaître le statut métaphysique de la personnalité, la voie la plus facile est celle de la réciprocité humaine. Et c'est pourquoi nous l'avons choisi, parce que c'est plus facile. À plus forte raison, quand le moi découvre que son essence n'est pas séparable, mais qu'elle est en Dieu et par Dieu, s'éveillera-t-il au caractère unifiant et transhistorique de la personne. En réalité, la réciprocité n'est pas seulement la voie la plus facile, puisque pour Nédoncel, la réciprocité aimante est la cause même de l'identité personnelle. Je crois que c'est ça le point de vue le plus précis de sa métaphysique. Parce que c'est pas toujours très précis. Hein. La réciprocité aimante est la cause même de l'identité personnelle. Donc, vous n'êtes une personne que grâce à votre ami. Hein? Alors, quand l'ami meurt, c'est la chute. C'est évident. Ça, je ne sais pas ce que vous devenez, pauvre Nédoncel. Il a dû mourir avant ses amis. Parce qu'autrement, il aurait dû reprendre sa théorie. N'est-ce pas? Parce qu'il restait. C'est vrai, je n'exagère rien, je ne fais pas la caricature. Mais je pose, c'est une position extrémiste, c'est pour ça qui m'intéresse. Parce que toujours, le philosophe s'intéresse au cyclope. La réciprocité aimante est la cause même de l'identité personnelle. Loin de se définir par l'incommunicabilité, la personne requiert au contraire la définition opposée, car elle est seule à être communicable. Et l'autre, loin d'être une limite du moi, est une source du moi. Un sujet, c'est lui qui dit ça, hein. Un sujet, c'est dans la réciprocité des consciences, un sujet n'est une personne que si, traversant l'objectivité brute propre au savoir animal, pauvre savoir animal, n'est-ce pas, il en vient à prendre la subjectivité même pour objet, c'est-à-dire à connaître autrui et à se connaître comme un centre qui est au-delà de la qualité. Oui, le dépassement de toute objectivité pour arriver à l'objet de la subjectivité et de la transsubjectivité grâce à l'autre qui vous aime. Maurice Nédoncel précise cependant que la réciprocité humaine ne fait pas surgir de toute pièce l'existence personnelle, qu'elle trouve le germe personnel comme une donnée, et que sa causalité consiste à ratifier ou à promouvoir. Donc il y a un petit germe quand même. Hein. Il faut bien, heureusement, parce qu'autrement ce serait... Alors quand l'autre meurt, je ne sais pas s'il y a réduction au germe. Qu'elle trouve le germe personnel comme une donnée, et que sa causalité consiste à ratifier ou à promouvoir. S'il y a une notion de personne, il n'y a pas d'idée générale de la personne. Cependant, si on compte l'expérience du moi ou du toi avec le tour d'esprit que convient à la nature, la personne ressemble à une idée et la communion à une participation objective. L'entreprise de décrire la vie personnelle à l'aide de concepts est dès lors inévitable. Quels seront donc les aspects conceptuels de la personne? Ce seront les traits de la personnalité réfractés dans la nature ou les traits de Dieu réfractés dans la personnalité humaine. L'ordre pur de la personne désigne en toute rigueur la vie d'un être unique en nous, c'est-à-dire Dieu. C'est de Dieu que jaillit ma personne. Du Dieu qui est non seulement le Dieu de chaque conscience, mais celui de chaque rencontre des consciences. Ce Dieu qui est nécessaire parce qu'il est le sauveur des consciences. En définitive, l'aptitude à être personnel dépend de Dieu seul. Dieu est le toi présent à tous les mois, le centre de toutes les consciences, le nous incréé qui précède tous les nous créés et les rend identiques à lui. Vous voyez ce que c'est. On est en face d'un ontologisme de la personne. C'est pour ça que je le cite, c'est parce que c'est très intéressant. Je crois que c'est le dernier ontologisme. C'est l'ontologisme de la personne. La personne ne se définit que parce qu'elle est le reflet de Dieu. Oui. Le miroir qui reflète la gloire de son origine. On peut dire ça de Marie, puisque la liturgie le dit de Marie, mais parce que c'est la créature par excellence, vous voyez qu'au point de vue naturel, c'est plus difficile. N'est-ce pas? Et c'est dit, ça, c'est pas moi qui exagère. L'ordre pur de la personne désigne en toute rigueur la vie d'un être unique en nous, c'est-à-dire Dieu. C'est la vie de Dieu en moi qui est ma personne. C'est de Dieu que jaillit ma personne. Du Dieu qui est non seulement le Dieu de chaque conscience, mais celui de chaque rencontre des consciences. Ce Dieu qui est nécessaire parce qu'il est le sauveur des consciences. Vous voyez, c'est l'ontologisme poussé à l'extrême. Alors à ce moment-là, c'est intéressant, parce que c'est à ce moment-là où il meurt. L'ontologie, vous savez bien ce que c'est que l'ontologie, c'est la position philosophique qui consiste à définir le créé par l'incréé, qui définit le fini par l'infini, qui définit donc l'homme par Dieu. Et vous savez bien que c'est l'ontologisme qui était occasion de l'athéisme. Puisque l'athéisme, face à l'ontologisme, veut libérer l'homme de sa relativité à l'égard de Dieu. Alors il faudrait regarder quelle est la forme d'athéisme qui répond à nos desseins. C'est très intéressant de voir ça. Donc je crois qu'on peut saisir cette forme tout à fait particulière. La personne, c'est celle qui est toute relative à l'autre. Or, je ne peux être en même temps absolu et relatif qu'à l'égard de Dieu. Donc, la personne, c'est relative à Dieu. On voit très bien la quadrature du cercle. Hein? Vous comprenez que la personne a deux dimensions, un absolu et une communicabilité. Comment unir les dieux, les deux par rapport à Dieu? Je peux être totalement relatif à Dieu et être totalement moi-même. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc, la personne, c'est ça. C'est celui qui reçoit ce reflet de Dieu en lui. Alors, il faudrait regarder ensuite, et nous allons laisser ça pour après les vacances, voir la position de Maritain. Je crois qu'il faut la voir, ça me semble important à saisir. La position de Maritain, la position de Heidegger, et peut-être aussi la position de celui qui avait fondé l'esprit, là, Mounier. parce que ça me semble intéressant comme puissant. C'est autrement dit, c'est pour vous montrer, si je vous rappelle ces textes, parce que vous n'avez pas le temps de tous les voir, alors c'est tout simplement vous montrer que, de fait, la philosophie contemporaine est une philosophie qui tourne autour du problème de la personne et autour du problème de la liberté. Et c'est pour ça que c'est très important de bien saisir ça. Et j'allais dire, c'est plus important la personne que la liberté, parce que la personne va essayer de rejoindre un aspect ontologique. Tandis que dans la liberté, on perd complètement. Alors je vous souhaite de bonnes vacances, de bons examens, parce que ceux qui doivent en passer, et puis on se retrouvera après Pâques.